À bout de souffle. Nous vous proposons d'écouter un long entretien d'une heure et demie que nous avait accordé André Markovitch en 2006 lors de sa résidence à l'Université de Tours. André Markovitch a entrepris pour les éditions Actes Sud la traduction, entre autres, de toute l'œuvre de fiction de Dostoïevski, le théâtre de Tchekhov, Pushkin et toutes les pièces de Shakespeare. Cet entretien a été enregistré au bar Le Serpent Volant à Tours avec un micro de fortune. Aussi, nous nous excusons par avance de la mauvaise qualité sonore de cet entretien. Mauvaise qualité qui aura peut-être au moins l'avantage de favoriser chez l'auditeur une plus grande attention d'écoute. Diffusé pour la première fois sur Radio Béton à Tours, en quatre parties, nous vous livrons ici la version intégrale de la discussion.
André Markovitch, pour vous présenter très rapidement, alors vous êtes un traducteur, vous avez traduit les œuvres complètes de Dostoïevski.
Les œuvres de fiction.
Les œuvres de fiction.
Fiction, pas les articles et pas le journal.
Vous avez également traduit du Tchekhov.
Avec Françoise Morvan, toutes les pièces.
Toutes les pièces,
ouais.
Pushkin, dernièrement.
J'ai traduit Eugène Onegin de Pushkin, j'ai traduit les pièces de Pushkin, j'ai traduit beaucoup de choses.
Et Shakespeare.
J'ai traduit une dizaine de pièces de Shakespeare.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous traduire? Parce que vous dites par exemple traduire c'est lire, et Steiner dit traduire c'est comprendre.
Ouais, mais si, on dit beaucoup de conneries dans la vie. Bien sûr, traduire c'est comprendre, et traduire c'est lire aussi, et c'est aussi vrai, faux. Si je me lance dans une explication sur qu'est-ce que c'est traduire. Vous savez, comment vous dire ça? Tolstoï, c'est pas que je veuille faire une comparaison, mais je vais parler par parabole. Tolstoï a refait 17 fois Anna Karénine. 17 fois. Et 17 fois, sa femme l'a recopié. Et on dit beaucoup de mal de Madame Tolstoï, hein, mais bon, elle avait quand même drôlement du courage. Et puis, quand c'est paru, il y a un journaliste qui lui a demandé: est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que c'est Anna Karénine? Et Tolstoï a failli le tuer. Parce qu'il dit, mais vous voulez que je le refasse une 18e fois? On ne peut pas dire qu'est-ce que c'est traduire. Comment dire? C'est lire d'une façon concrète, précise, avec des mots. J'appelle ça lire avec ses doigts. C'est-à-dire... Moi, je distingue deux façons de lire, vous voyez. On lit comme tout le monde, là, avec les yeux. Et quand on lit avec les yeux, ben, les yeux, ils ont cette particularité, c'est que ça glisse, quoi. Ça glisse. Alors que quand on lit avec les doigts, ben, ça glisse moins. Et puis, traduire quoi?
Alors,
voilà.
On va en parler plus tard.
Mais vous savez, dire, traduire, c'est comprendre. Moi, je trouve, c'est pas pour dire, j'ai un énorme respect pour Steiner, mais c'est très prétentieux. Parce qu'il est sûr qu'il a compris. Non, mais je veux dire, sérieusement. qui peut dire qu'il est sûr qu'il a compris? Personne. Ou alors, il faut vraiment se prendre pour Dieu le Père. Et encore, est-ce que Dieu le Père a compris? Je veux dire, non, c'est pas ça. C'est lire d'une certaine façon. Et lire de telle sorte que le lecteur de votre lecture puisse lire comme vous. Ça, oui. Mais comprendre.
Donc en lisant, par exemple, une traduction d'André Markovitch, est-ce qu'on peut avoir une idée de la lecture d'André Markovitch?
Ah, ben, si on n'a pas ça, c'est pour ainsi dire raté. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Il n'y a pas un effacement, il y a une vraie place que doit prendre le traducteur. Un parti pris presque, non?
Et vous comprenez, on parle d'effacement du traducteur, mais c'est, je pense que c'est juste, on ne se rend pas compte. Je veux dire, si vous lisez, prenons Dostoïevski, ce que vous lisez, vous, si vous lisez pas le russe, c'est quelqu'un, c'est pas Dostoïevski du tout. Dostoïevski, il a écrit en russe, point, c'est aussi bête que ça. À partir du moment où ce que vous lisez est en français, vous ne lisez pas Dostoïevski. Donc la première chose, c'est d'abord d'être conscient de ça. Ça veut dire quoi? Que ce que vous lisez est par nature partial. Et donc partiel. À partir du moment où vous êtes conscient de ça, la question n'est pas de l'effacement ou de la mise en avant, mais de la cohérence de votre présence.
Justement, il y a une idée de traduction, d'un deuil finalement, de l'impossibilité de faire la copie exacte de ce qu'est l'original. Il y a un travail de deuil sur cette impossibilité-là.
Et pourquoi voulez-vous qu'il y ait un travail de deuil? Et pourquoi voulez-vous copier?
La question de la fidélité par rapport à l'original, par exemple.
Et c'est quoi la fidélité? Concrètement, fidèle à quoi?
Un texte, un texte d'origine.
Mais au nom de quoi et sur quels critères? Mais parlons de la fidélité.
Parce que est-ce que dans la lecture, il n'y a pas justement, à partir du moment où on lit, on intervient dans l'œuvre peut-être justement.
Mais regardez, ça nous est arrivé à tous de lire deux fois le même livre. On n'a pas lu le même. On est fidèle à quoi? Est-ce que quand je lis le deuxième fois, je suis fidèle à qui je suis fidèle? Par conséquent, cette histoire de fidélité, c'est encore une espèce de lieu commun qu'il faut enlever. On est fidèle à rien. Par contre, là encore, il s'agit de voir qu'est-ce qu'on lit. Et est-ce qu'on a la capacité, et Dieu sait que ce n'est pas donné, est-ce qu'on a la capacité de faire partager au lecteur la cohérence de sa lecture? Et la fidélité doit être la fidélité à soi. C'est-à-dire à sa lecture. Je lis telle œuvre comme ça, donc j'essaie de la traduire de cette façon-là. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est fidèle en général. Pour moi, la fidélité, c'est une notion, d'ordre privé et moral.
Alors je vais continuer à prendre des petites citations. Vous dites aussi, je réfléchis par les mots. Les mots, c'est la matière première avant la phrase.
Les mots font des phrases. Les phrases font des paragraphes. Les paragraphes font des pages. Oui, les mots sont importants.
C'est quoi? C'est une approche de la traduction du mot à mot quand...
C'est juste un truc tout bête. C'est que d'abord, il faut lire ce qui est écrit. C'est-à-dire que je ne connais pas les idées de Dostoïevski avant d'avoir lu Dostoïevski, avant d'avoir vu les mots de Dostoïevski. Et Dostoïevski, il a écrit ce mot-là et pas un autre. Eh bien, pourquoi il a écrit ce mot-là et pas un autre? Ah, ça, c'est intéressant.
Comment ça s'incarne, presque?
Voilà.
Alors, justement, par rapport à Dostoïevski, est-ce que c'est quitter l'énoncé pour aller vers l'énonciation?
Oula.
S'attaquer au discours, en fait, finalement. Ou le texte, mais prendre le discours. Un sujet qui parle. Un sujet qui est construit par son discours et le discours qui construit le sujet. Est-ce que c'est au discours que vous attaquez plus qu'au texte, c'est-à-dire comme l'oralité aussi, quelque part?
Moi, je traduis, tu sais. Je traduis. S'il fallait que je me pose ces questions-là, le temps que je me la pose, je ne traduirai plus. Non, je vous comprenez ce que je veux
dire. Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, ça, c'est pas une question pour moi. C'est une question pour vous, lecteurs de mes traductions. Mais pas pour moi. Je veux dire, si je commence à faire de la théorie sur la traduction, je suis mort.
C'est quelque chose que vous refusez ?
Absolument. Parce qu'à chaque fois, moi, mon expérience de traducteur, c'est qu'à chaque fois, c'est pas pareil. C'est que tu apprends une chose sur un texte, ça te gêne. Et le jour où tu apprends quelque chose, t'es mort. Donc, parler des... Qu'est-ce que je veux dire ? Pour Dostoïevski, ce qui compte, c'est qu'il ne faut pas prendre son texte pour monnaie courante. Ce qui est écrit n'est pas obligatoirement vrai. Il faut que le lecteur qui lise Dostoïevski ait une espèce, comment dire, de gêne. C'est-à-dire, où finalement, il lit des trucs incroyables et puis à la fin, il se pose la question de savoir « Mais pourquoi il dit ça ?» Par exemple, pourquoi il y a les carnets du sous-sol ? Pourquoi c'est écrit ? Ou la douce, hein, ce monologue de ce... Pourquoi c'est écrit ? Et il est très important pour moi de ne pas donner de réponse. Mais il est capital que le lecteur, à la fin, se pose la question, mais et s'il m'avait mené en bateau ? Et c'est pas vrai qu'il m'a mené en bateau. Peut-être que c'est pas vrai, ou peut-être que c'est vrai. Mais ce qui compte, c'est que la littérature à partir de Dostoïevski, comment dire, n'est pas du côté de la vérité et de la morale. Et ça, ça compte. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas.
On a quand même l'impression que vous cherchez à plier la langue française au russe.
Oui. Non. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un truc important pour moi. Je peux faire un peu d'histoire de France ?
Bien sûr.
D'une façon un peu idiote, mais... Qu'est-ce que c'est ? Il y a un double mouvement, j'en parle, j'en ai un peu parlé, mais là je vais en parler comme ça. Il y a un double mouvement dans l'histoire de France. Comment est-ce qu'on devient français ? En cessant d'être étranger. Ce que je dis est bête, mais c'est-à-dire qu'il y a une chose qui est formidable du point de vue politique, c'est que pour l'instant encore, tant que, quoi qu'on nous bassine de plus en plus avec le communautarisme, et qu'on nous parle de communauté juive, de communauté arabe, de communauté homosexuelle, et je ne sais pas de quelle communauté autre. Ce qui compte, c'est l'appartenance à la nation. Et l'appartenance communautaire est de l'ordre du privé. Bon. Et je trouve que ça, c'est absolument formidable. Que c'est une particularité magnifique amené par la Révolution française, qu'il faut absolument préserver, et que Dieu sait qu'on met en cause en ce moment. Bon. Mais dans la littérature, on a fait la même chose. On rend les étrangers français. Mais je dis ça souvent, mais Dostoïevski, il s'en fiche d'être traduit en français. Parce qu'il est mort. Et que ça lui apporte rien d'être traduit en français. Il a écrit en russe, pour des Russes. Mais par contre, nous, c'est très très important qu'on lise Dostoïevski. Et le chemin n'est donc pas d'amener Dostoïevski à nous, mais c'est d'amener nous à Dostoïevski. C'est-à-dire que ce qui compte pour la traduction, c'est de rendre étrangère un tant soit peu la langue française, de façon à ce qu'elle puisse accueillir naturellement la langue de Dostoïevski. Et la langue française est riche et accueillante, comme devrait l'être la nation française. Et Dieu sait qu'elle ne l'est plus. C'est-à-dire que personne ne peut dire, en dehors de celui qui pratique sur le là, maintenant, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on dit la langue française, c'est une langue logique, rationnelle ? C'est entièrement stupide, Rimbaud, c'est logique et rationnel. Quelle langue est logique et quelle autre ne l'est pas ? C'est des arguments simplement pas pensés, bêtes. Aucune langue n'est plus logique ou plus rationnelle ou plus émotionnelle que l'autre. Simplement, qu'est-ce qui existe en France ? Et c'est là, et sur c'est ça qu'on se bat. C'est, il existe une norme littéraire. Il existe une grande différence entre la langue de la littérature et la langue de la vie. Et ce qu'on enseigne à l'école et ce qu'on utilise généralement dans la littérature, certes de moins en moins, mais quand même, c'est cette... ce qu'il faut bien appeler une langue du pouvoir. Et ces enjeux de la langue sont des enjeux spécifiquement français. Qui sont, mais il est très important d'en être conscient. C'est-à-dire que ce qu'on enseigne à l'école est évidemment une norme, par nature, mais c'est une norme qui définit votre position sociale. Je veux dire que plus vous pouvez manier cette norme, plus vous avez des chances d'oppresser les autres. Disons ça comme ça. Je dis d'une façon trop violente. Mais voilà. Les enjeux en Russie ne sont pas ceux-là. Et donc, il était essentiel pour moi de traduire les œuvres complètes de Dostoïevski pour habituer un lecteur français à une autre idée de la langue française.
C'est marrant. Est-ce que vous dites que ça soulève plein de questions, mais par exemple, dans cette idée de la différence entre la culture russe et française et cette norme de la langue académique qui est beaucoup plus forte en France, ça voudrait dire par exemple que la révolution de Céline, enfin, moi je le ressens comme ça, elle n'aurait pas pu exister en Russie. Cette introduction comme ça de l'oralité, du...
Mais on peut discuter longtemps de l'oralité de Céline.
Ouais.
Il n'y a pas un seul imparfait du subjonctif, c'est chez Céline qui soit faux.
Oui, oui, tout à fait, oui, oui. C'est-à-dire c'est très travaillé et c'est très...
Et non seulement c'est très travaillé, bien sûr c'est une oralité, mais c'est une... C'est... La perversion, c'est un jeu. Voilà, la perversion est justement là.
Oui, oui.
Voilà. Mais... Céline, c'est, disons, 1936, ça commence en 36, hein, 35-36, voilà. Dostoïevski, c'est 1800, commence en 45, 1845.
Il y avait quand même une différence, par exemple, entre Tourguenieff, qui avait, enfin, de ce qui se dit, une langue beaucoup plus...
Non, mais c'est-à-dire que, en fait, il n'existe pas de normes en Russie pour savoir qu'est-ce que c'est la littérature et qu'est-ce que c'est la langue littéraire. Pouchkine disait... Et il faut toujours en revenir à Pouchkine.
Un peu la langue de Pouchkine, la langue littéraire russe après.
Non, Pouchkine disait qu'il faut apprendre le russe chez les épiciers. Et il était très sérieux. C'était pas du tout une façon ironique de parler. C'est que la vraie langue russe se trouve chez le peuple. Et qu'un écrivain digne de ce nom est un écrivain qui est capable d'utiliser cette langue-là. Et pas simplement la langue décalquée du français et des normes littéraires françaises. Bon. Après, chaque écrivain compose ses propres normes. Tourguenieff est un cas tout à fait spécial, qui utilise, mais délibérément, une langue d'une grande finesse, d'une grande élégance, et en quelque sorte qui s'oriente délibérément sur la littérature française et occidentale. Voilà. Mais c'est un cas unique. Tolstoï écrit... Un cas unique. Tolstoï écrit beaucoup plus mal que Dostoïevski. Mais il n'écrit pas ni mal ni bien. Il crée lui-même sa propre langue. Et sur des bases, mais radicalement différentes de Dostoïevski. Juste qu'ils n'ont rien à voir. Ces deux mondes, absolument, ils sont quasiment contemporains. Enfin, ils sont contemporains, ils se connaissent pas. Ça peut dire qu'ils s'apprécient pas. Ils vivent sur des planètes différentes. Et je ne parle pas de Gontcharov. Je ne parle pas d'écrivains encore moins connus comme Saltykov-Chédrine, et Dieu sait s'il est un écrivain important, et ainsi de suite. Chaque écrivain invente sa... Et je n'ai pas parlé de Gogol, mais la langue de Gogol, elle est... Et même, quand je dis la langue de Gogol, c'est déjà absurde. C'est les langues de Gogol, comme les langues de Dostoïevski. Ça n'existe pas, la langue. Vous voyez ? Et chaque écrivain a sa propre norme, ses propres références. C'est ça qui fait la richesse. Et, et là, pour le coup, le travail du traducteur serait de faire comprendre ça.
Vous dites également qu'en Russie, le temps du récit, en fait, il semblait que le temps du récit en russe n'existe pas.
Ah bah oui, ça c'est encore un truc grammatical. Je veux dire, il n'existe pas de passé simple. Il existe un temps du passé.
Il n'y a pas la distinction temps du récit.
Non, il n'existe pas passé simple. Nous on a... Mais je raconte souvent cette histoire-là. Françoise Morvan, mon amie, donc a une fille, qui était, quand elle était petite, Françoise lui disait des contes. Donc elle avait 2 ans, et puis Hélène, elle demandait toujours le même conte, comme tous les enfants font. Et une fois, Françoise dit, bon, ben écoute, mais tu connais ce conte, alors tu peux te le dire toi-même. Et la petite fille, et Françoise est sortie, et a écouté ce que disait la petite fille. Et la petite fille a dit la chose suivante. Et alors, le prince... non, et alors, Boucle d'Or ouvrit la porte, elle vit le prince, elle tombit amoureuse... Mais elle se relevit très vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mais la petite fille parlait parfaitement à 2 ans. Elle savait très bien que dans la vie, se relevir n'existe pas, mais qu'on dit se relever. Et on ne dit pas tombir, mais tomber. Mais le temps du conte avait un temps. Le conte, c'était un temps particulier. Qui faisait que il y avait la vie, il y avait et le temps du conte. Voilà. Mais moi, en russe, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas faire ça. Parce que pour moi, quand j'ouvre la porte et que Boucle d'Or voit le prince, elle le voit là. Et moi, quand j'étais petit et qu'on me disait des contes et que je me disais des contes, les 3 ours, ils étaient en face de moi. Et c'est une différence.
C'est une difficulté. Par exemple, pour la traduction de l'adolescent, à quel temps?
Ah ben voilà. Ça, c'était un vrai sujet pour moi. C'était très compliqué de savoir quel était le temps de l'adolescent. J'ai commencé sur le passé simple, j'ai fini par le passé composé. Mais très compliqué. Très compliqué. Et là, je dois avouer l'échec. Parce que, de toute façon, quelle que soit la situation, c'est faux. Bon, supposons que je traduise tout au passé composé. D'abord, il n'existe pas d'exemple de récit de 1000 pages au passé composé. Ça n'existe pas en France. Mais pire que ça, quand on dit « bonjour, dit-il », le « dit-il », on ne le sent pas, mais il est naturel. Et puis, bon, voilà, on le lit comme ça. Mais si je dis « bonjour, m'a-t-il dit », c'est beaucoup plus lourd. Vous voyez ? Et je n'ai pas su me sortir de cette histoire-là.
Dans l'adolescent, vous avez choisi Mathilde ?
Je crois, oui. Je sais, oui. Voilà. Et des choses comme ça. Et c'est très compliqué parce que, du coup, ça implique... en russe, c'est normal. Сказал он мне, je ne peux pas savoir si c'est Mathilde ou me dit-il ou...
Il me semble, je crois, savoir que, par exemple, Tchekhov, il est paru plusieurs rééditions de la série C de Tchekhov, traduit par vous.
De chaque pièce.
De chaque pièce. Alors, on a le sentiment que finalement, c'est jamais fini. C'est toujours à recommencer. Quoi.
Bien sûr. C'est-à-dire que Tchekhov, c'est un cas particulier à double titre. Hein. D'abord, je le traduis avec Françoise Morvan. Ça, c'est la première chose. Et donc, les choses changent un peu. La deuxième chose, c'est qu'on le travaille, on le traduit en liaison avec des équipes de théâtre. Ça veut dire qu'à chaque lecture, à chaque mise en scène, on retravaille sur le texte. Il n'y a pas une seule mise en scène de Tchekhov qui se fait dans une traduction, dans une de nos traductions, qu'on ne refasse pas entièrement. Tout le temps. Parce que l'équipe est différente. Pendant le temps des répétitions, bien sûr. Parce que l'équipe est différente. Parce que les points de vue sont différents. Parce qu'on nous pose des questions intéressantes. Et à chaque fois qu'on revient sur Tchekhov, on découvre des choses absolument nouvelles. Et comme on a la possibilité physique de changer. Mais je changerai Dostoïevski pareil. Hein.
Pareil.
Pareil. Mais là, on a la possibilité physique, c'est-à-dire, on a le. Comment dire, on voit un acteur, on lui dit, écoute, tiens, ça on l'a dit comme ça, mais tu peux changer. Tu peux trouver le truc. Change-le tout de suite. Indépendamment du fait de savoir si c'est publié ou pas. Parce que c'est juste jouer, quoi. Et voilà. Et l'édition suit.
C'est une chance extraordinaire.
Ah ouais. Ça, c'est incroyable.
C'est comme si aussi, tout d'un coup, le corps de l'acteur pouvait trouver son propre langage par son corps. Bah oui. Si dire un texte et avoir le mouvement du corps pouvait amener à ce que le texte se modifie en fonction
mais,
du corps.
Mais absolument. Mais y a, pour aller dans votre sens, pendant très très longtemps, on n'a pas su traduire le début de la Cerisée. Le début de la Cerisée, c'est en russe « Пришёл по слава Богу ». C'est Lopakhine qui se réveille en sursaut et qui dit littéralement « Est arrivé le train, Dieu soit loué ». Bon. Le fait de mettre le verbe au début signifie une insistance sur le fait qu'il est arrivé et ça veut dire qu'il l'a attendu. Et n'importe quel locuteur du russe comprend ça. Que la cerisée commence par une attente ratée et que c'est que le premier exemple de toute une série d'échecs qui forment la trame de la cerisée. Bon. Et comment traduire ça en français? Au début, j'ai essayé de dire que le train est arrivé, c'est pas du tout ça. Parce que quand je dis le train est arrivé, je dis juste le train est arrivé. Et je dis, ça montre pas du tout qu'il l'a attendu.
Il l'a attendu. Bon.
Si je dis, il est arrivé le train, et alors? On me dit, mais c'est familier, mais pourquoi il est arrivé? Et d'ailleurs, si j'insiste sur le fait, il est arrivé le train, on dirait plutôt pas il est arrivé le train, mais il est là le train, ou je sais pas, ou autre chose. Mais pas il est arrivé le train.
Tiens le vlog.
Ouais, voilà. Bon. On s'est tellement pris le chou avec François sur ce truc-là que dans la première édition, on a oublié Dieu soit loué. Et on est resté à proposer toutes sortes. Et il y a eu 5 mises en scène de la cerisée. Et à chaque fois, on trouvait un truc nouveau. Et, ouf, il est là, tiens, ça y est, il est. Enfin bon, vous ne pouvez pas savoir. Et à chaque fois, ça passait absolument inaperçu parce que chaque fois, l'acteur prenait, il se réveillait en sursaut. Et quoi qu'il puisse dire, de toute façon, c'était bien. Parce que ce qui compte, c'est pas ce qu'il dit, c'est l'attitude. Il est ahuri et voilà. Bon, bref. Et donc, on était sur ça, désespéré et tout. Et pendant, au cours d'une répétition au théâtre de Bussan, dans les Vosges, il y a Jean-Yves Ruff, qui est un acteur absolument magnifique, et un metteur en scène formidable, qui s'est gouré. Et il a trouvé ce qu'il fallait dire. Et il a dit, il est arrivé ce train. Pas le train, ce train. Il a fallu 12 ans.
Comme ce train qu'on manque.
Mais bien sûr, et ce train-là. Et ça, c'est cette chance qu'on a, qui est extraordinaire, de pouvoir travailler avec, comment dire, pour le théâtre.
Qu'est-ce qui vous a mis à la traduction?
Et, c'est bizarre, ma première langue, c'est le russe. Et puis... quand j'ai commencé à écrire des poèmes, comme tout adolescent de 14-15 ans, hein, parce que, j'ai commencé à traduire. C'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce que ça pouvait donner en français, ce que je lisais en russe. C'est ça. Et parce qu'il y avait encore un autre truc. Je savais que je ne lisais pas la même chose en russe et en français. Et pas simplement pour des questions de langue. Hein. Donc ma mère est russe, mon père était de langue française. Et je disais pas pareil. Je disais pas pareil, passe-moi le sel. Parce que quand je disais passe-moi le sel en russe, je le disais à ma maman. Et ce qui compte, c'était ma maman, c'était pas passe-moi le sel. Et quand je le disais en français, je le disais en français. Ce qui comptait, c'était mon papa. Et généralement, on ne dit pas passe-moi le sel, ni à son papa, ni à sa maman. Mais on met quelque part, s'il te plaît. Et d'une façon ou d'une autre, on essaie de dire, dans ce s'il te plaît, je t'aime, est-ce que tu m'aimes? Qui est la base même de toute vie. Et donc voilà.
Et c'est là où...
Et c'est là que ça commence, c'est la traduction. Bien sûr.
Tout le monde dit, en fait, la part cachée.
Mais bien sûr. Et l'essentiel aussi dans une traduction... L'essentiel. Ce qui compte aussi dans une traduction, c'est qu'on sente qu'il y a du non-dit. Il est très important de sentir... comment dire, l'interlocuteur. que ça s'adresse à quelqu'un. Je sais pas comment expliquer ça. Que c'est pas un texte comme ça figé, machin, je sais pas quoi. Oui. C'est la vie, quoi. Et que la langue n'existe pas en tant que... Oui, on se bat beaucoup en Bretagne contre les nationalismes bretons. Contre, parce que Françoise a publié 18 volumes de contes bretons et a écrit un livre absolument fondamental sur le nationalisme qui s'appelle « Le monde comme si ». Et on se bat beaucoup contre les nationalistes qui font une espèce de déification de la langue pour elle-même. Mais la langue pour elle-même n'existe pas.
Et il affiche, du coup.
Mais bien sûr. La langue en soi, ça n'existe pas. Il n'existe que ce que tu dis à quelqu'un pour dire quelque chose. Et quand il parle de sauver la langue, c'est déjà perdu. Parce qu'une langue, malgré tout ce qu'on peut faire, tu la sauves pas. Soit tu la parles, soit tu la parles pas.
Elle est vivante.
Elle est vivante. Voilà. Et voilà. Et ce qui nous fait particulièrement de la peine, il y a beaucoup de choses qui nous font de la peine, mais c'est que dans les écoles dites de langue bretonne, on apprend une norme figée du breton. Mais alors qu'en France, on apprend aussi une norme française figée, mais les élèves autour, ils ont plein d'exemples d'emploi d'une langue non normée, alors qu'en breton, c'est plus le cas. Et donc les pauvres gosses qui apprennent cette langue normée n'apprennent que ça.
Une langue morte, ce qu'on appelle une langue morte.
En pensant qu'ils la défendent. Et c'est triste.
C'est ce qui fait qu'on peut peut-être lire l'histoire à travers la langue.
Ah bah bien sûr. Bah, la langue est, comment dire, c'est le terrain de l'histoire. Bien sûr. Et la langue française en particulier. Bah, c'est ce que je disais sur la... comment vous dire, sur la langue du pouvoir. Je cite souvent cet exemple, mais il est intéressant. L'emploi du mot vulgaire en France. Pour Montaigne, c'est un mot du registre intellectuel, et ça signifie tout ce qui a trait au peuple. Hein, la langue vulgaire, c'est le français. Pour le dictionnaire de l'Académie française, vulgaire devient grossier, qui a trait au peuple. C'est-à-dire que vulgaire devient grossier, prend son sens moderne. Mais ce qui est devenu grossier, c'est le peuple. C'est-à-dire que, avec Richelieu et avec l'Académie française, 95% du lexique a disparu de la langue. Juste qu'il n'a pas été noté dans les dictionnaires. La littérature n'a concerné que, ouais, disons, ce qu'on appelle la langue de la ville. Dans le meilleur des cas, puis il y a la langue de la cour, ça c'est la langue de la tragédie. Et je fais souvent remarquer une chose qui me semble très importante aussi. Dans le Don Juan de Molière, Pierrot, il est cocu, pourquoi ? Et à cause de sa langue. Parce qu'il parle une espèce de dialecte picard. Parlant un dialecte picard, il est obligatoirement cocu. Mais ce qui est essentiel, c'est que, et comique, naturellement, le dialecte picard est par essence comique. Il n'y a que tout ce que tu dis en picard est comique. D'autre part, c'est dans le Don Juan de Molière, qui est la pièce la plus révolutionnaire, la plus radicale de Molière, qui est l'auteur le plus radical de son époque, qui donc remet en cause absolument tout l'ordre social, historique, politique de son vivant dans le Don Juan, sauf la langue. Le fait que la langue de Don Juan n'est pas la langue de Pierrot est une évidence, ça n'avait même pas la peine de le dire. Et tout est là. Et les enjeux de langue dans le Don Juan sont sanglants.
Et les enjeux de la traduction dans l'histoire, elle est importante aussi. Chaque génération fait ce travail dans cette entreprise de retraduction des textes.
Pendant très longtemps, en France, ça n'a pas du tout été important.
Ça n'a pas du tout été
important.
Même pour la traduction de la Bible, par exemple
Non. Pendant tout le... D'une façon, bah, la Bible est un exemple encore plus parfait, puisque la Bible dans le culte catholique était en latin. Et traduire la Bible était absolument inutile, voire protestant, voire dangereux. Hein? Donc, c'est l'exemple même. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde traduisait du français, voire lisait en français. Et ce, il y a encore ce qui caractérise l'histoire de la traduction en France, et il y a, de tous les textes qu'on a traduits, c'est qu'on les a traduits sans respecter la forme. François-Victor Hugo ou Le Tourneur ou Guizot, eh ben, ils ont traduit Shakespeare en prose. Parce qu'en quelque sorte, on a besoin de l'histoire, mais on n'a pas besoin de la... On n'a pas dans l'idée de présence formelle autre que la nôtre, autre que l'alexandrin. Et donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, les romantiques allemands, un sujet que je connais peu, mais eh ben, ils ont fait une chose, ils ont essayé de traduire Racine en pentamètre iambique. Le pentamètre iambique, c'est tatam, 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 tatam. Ça, c'est un pentamètre iambique. C'est en fait le vers de Shakespeare qui compte non pas le nombre de syllabes, mais le nombre d'accents. Pentamètre, c'est 5 accents, et iambe, c'est une unité de 2 avec accent sur la deuxième. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est le vers de Shakespeare. Et pas seulement le vers de Shakespeare, mais disons. Et les romantiques allemands ont essayé de traduire Racine comme ça. Mais pourquoi ? Contre la France. Contre l'hégémonie de la France. Pour prendre le symbole, la plus France de la France, Racine, et de le transformer en une espèce de, comment dire, de faux Shakespeare. Oui. Et les enjeux de forme sont très... C'est pour ça que moi, quand je traduis Shakespeare, je traduis le pentamètre iambique. Parce que je ne traduis pas... Enfin, je traduis en respectant la forme. Quand je dis en respectant, ça veut dire... Quand c'est en vers, je fais des vers. Quand c'est en vers rimé, je fais des rimes. Quand c'est en prose, c'est en prose. Voilà.
Je peux vous lire quelque chose qui dure une demi-page, parce que ça me semble intéressant. C'est un traducteur contemporain qui vient de retraduire, entre autres, Nietzsche, le Zarathoustra. Alors, je trouve ça intéressant, parce que contemporain de Dostoïevski. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à ce que vous dites sur la traduction. Et il dit... Un mot enfin sur cette nouvelle traduction, donc de Zarathoustra. Elle voudrait affirmer un ton différent de celui que les autres versions du Zarathoustra de Nietzsche ont perpétué jusqu'ici. Elle vise à conserver en français la force du texte original, en se tenant aussi près de l'allemand qu'il a paru concevable. Souvent, cette fidélité a semblé la meilleure façon de faire passer la splendeur emportée. Toutefois, cette traduction ne cherche pas le simple décalque, plutôt une équivalence de vigueur. Elle tente d'éviter tous les affadissements. Aussi bien, elle refuse de croire que l'intention stylistique de Nietzsche est le mieux rendue en français par l'archaïsme ou la préciosité. Au contraire, elle ne veut pas perdre l'oralité qui donne aussi à la parole de Zarathoustra son éclat. Elle cherche le mot simple, la formule brève, les mots qui sortent de ma bouche, ce sont les mots du peuple, comme dit Zarathoustra, de l'esprit de lourdeur, elle veut, elle espère, être vive, drôle, etc. Donc c'est ce qui est...
Qui c'est ?
C'est un jeune traducteur qui s'appelle Maël Renoir, qui a moins de 30 ans, je pense, et qui... Alors je me demandais, c'est quoi, c'est un pseudonyme de Marcovix, ou alors votre méthode a fait école, ou alors est-ce que le contexte...
Je le connais pas, celui-là.
Oui, non, je le sais bien. Mais est-ce que vous pensez
bien. Je trouve que...
Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose dans le contexte de notre époque qui permet à quelqu'un comme vous d'émerger, à un traducteur de prendre ce risque, enfin, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus ou ça vous laisse froid?
Non, moi je trouve que c'est bien qu'il fasse ça. Mais vous savez, comment dire? Quand j'ai traduit Dostoïevski, on ne m'avait pas attendu pour savoir que Dostoïevski est un grand écrivain. Je veux dire, mes objectifs, s'il y avait des objectifs, n'étaient pas ceux des traducteurs qui m'avaient précédé. Les traducteurs qui m'avaient précédé, leur but, et leur but unique, c'était de faire entrer une œuvre et une figure immense dans la vie intellectuelle française.
À faire accepter.
Voilà. Et eh ben, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ils ont réussi. C'est-à-dire que s'il existe un écrivain dont l'œuvre a été un écrivain étranger dont l'œuvre est capitale dans le débat intellectuel du XXe siècle en France, c'est Dostoïevski. Maintenant, les traductions, quand je lis moi ces traductions, les bras m'en tombent. Je me dis, mais c'est bizarre, c'est pas du tout Dostoïevski. Bon. Et ça veut dire que moi je peux travailler sur autre chose que dire, vous savez, Dostoïevski est un grand écrivain. Travailler sur le style, sur le... Voilà. Je pense qu'il existe, qu'il arrive la même chose sur Nietzsche. On n'a pas attendu Maël Renoir pour lire Zarathoustra. On est à une époque où justement, on peut relire.
Les enjeux sont différents.
Où les enjeux sont différents.
Et c'est pareil avec Shakespeare ? Vous avez envie de traduire Shakespeare aujourd'hui ?
Oui, c'est pareil. Moi, je fais une énième retraduction de Shakespeare. Et que je sois le 143e, le 139e ou le 2001e m'indiffère.
Il y en aura après vous.
Ben j'espère bien. Mais peut-être qu'avec le réchauffement de la planète, ça va s'arrêter bientôt. Mais voilà. Non, parce que ça pose un vrai problème pour les droits d'auteur, le réchauffement de la planète.
Pourquoi ?
Bah, qui va avoir mes droits d'auteur ?
Qui doivent être faramineux, évidemment.
Ça dépend, non. Mais c'est pas ça, c'est le droit moral, par exemple. C'est un vrai problème. Moi, encore, ça va. Et d'ici 100 ans ? Non, c'est pas gay. Hein. Imaginez, vous trouvez le droit moral de votre travail qui est détenu par un diplodocus. Hein. Ça n'a aucun... Ça n'a pas de sens.
Comment vous finissez les traductions ? Qui relit ?
D'abord, c'est faux, je ne les finis pas. Il y a deux personnes...
Vous arrêtez.
Oui. Moi, j'ai une chance absolument formidable. D'abord, je suis le fils de ma maman. Je dis ça très sérieusement. J'ai 45 ans, mais je suis le fils de ma maman. Ma mère, qui m'a transmis le russe, relit toutes mes traductions du russe. Et c'est capital, parce qu'elle le relit sans concession. Et qu'elle a un très bon sens littéraire. Mais elle le relit du point de vue du russe. Françoise Morvan, avec laquelle on traduit Tchekhov, relit toutes mes traductions du point de vue du français. Elle ne parle pas russe. Et donc elle relit le texte français. Et la qualité de ces relectures est simplement inouïe. L'exigence de ces relectures est absolument inouïe. Et moi j'essaie de relire tout ce qu'elle fait aussi. Et notre relation, qui dure depuis un certain nombre d'années, est basé en particulier sur ça, sur l'absence totale de flatterie dans le travail. Ensuite, pour Shakespeare, là encore j'ai beaucoup de chance, parce que je travaille avec un ami qui s'appelle Hugo Tucker, qui est 16e, qui est anglais, professeur dans une université de Londres, mais qui est 16e, spécialiste du 16e français, italien et latin. En particulier, un spécialiste de Dubélé. Et qui relie Shakespeare du point de vue et de la langue anglaise et du 16e siècle. Et donc, j'ai une relecture très très précise, historique, de chacune de mes traductions. Et sans ces relectures, mon travail n'existerait pas. Je ne travaille pas seul.
Qui y a quelque chose qui m'intrigue. L'année dernière, quand j'avais lu un texte de Friedrich Schiller, où aussi je vois que quand le traducteur a réussi à faire rimer, en fait je pensais que la reproduction n'était pas possible de la rime en français. Comment on arrive à chercher à ne pas parler au sens et quand même garder la musicalité de quelque chose
ben, par exemple sur Pushkin, Eugène Onegin, c'est tout,
tout rimé.
Tout rimé.
Vous savez, comment vous dire ? Comment c'est possible ? Je raconte souvent ça, mais quand j'ai commencé à apprendre à conduire, je me suis installé au volant, et je commençais à 30 ans, hein, j'ai mis du temps à me décider, et je me suis installé au volant, et j'ai posé, et donc on a commencé à rouler, et j'ai posé la question suivante au, comment dire, au moniteur. Comment est-ce qu'on calcule l'angle dans lequel il faut tourner le volant pour suivre le tournant ? Et alors, c'est une vraie question. Hein.
Ah, mais si on commence à penser à ça, on ne tourne plus.
Eh bien, il s'est arrêté net et a dit, écoutez, je pense que vous n'êtes pas encore mûr pour commencer. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand vous conduisez, vous regardez devant, vous regardez derrière, à trois endroits différents. Hein ? Vous passez les vitesses, vous appuyez sur les pédales. Généralement, vous ne vous trompez pas entre l'accélérateur et le frein. Vous écoutez de la musique. Vous pouvez. Vous mâchez un chewing-gum. Vous pouvez penser à des choses. Vous pouvez discuter avec la personne qui est à côté de vous. Et vous faites tout ça ensemble. Et si vous ne faites pas ça ensemble, il vaut mieux que vous ne conduisiez pas. Si vous décomposez. Comment est-ce qu'on peut traduire en respectant la forme ? C'est un travail. Mais si vous ne faites pas ça, pour moi, vous ne traduisez pas de la littérature. Vous séparez l'âme et le corps. Alors du point de vue théologique, c'est peut-être intéressant. Mais en gros, si l'âme existe, ce qui est discutable, en tout cas, votre esprit n'existe pas en dehors de votre corps. Enfin, jusqu'au moment, bon bref, vous comprenez ce que je veux dire ? Eh bien, c'est pareil. La forme et le fond, nous, on ne distingue pas. Mais. Il y a une vraie difficulté de la chose. Il y a une part la difficulté technique de le faire. Et sur ça, je voudrais dire une chose. La traduction est un métier. C'est un travail.
Vous l'avez appris, quand on apprend un métier.
Exactement. Ça s'apprend en travaillant. C'est en sciant que Léonard de Vinci.
Mais c'est là où on vous retrouve, quoi, dans votre refus d'être dans la théorie de la traduction.
Oui, mais c'est un vrai travail. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je veux dire par là ? Imaginez un concertiste qui ne sache pas déchiffrer une pièce. Il ne ferait pas de concert. Et on se demande, et pour, bizarrement, on ne se rend pas compte que dans la littérature, que dans l'écriture, ce n'est pas simplement une question de savoir technique, mais c'est aussi une question de savoir technique. Mais il va de soi que si vous n'avez que le savoir technique, vous n'avez rien du tout. Que la virtuosité en elle-même n'est rien. Elle est juste indispensable. Mais qu'une fois que vous l'avez, vous n'avez rien encore.
C'est un peu l'artiste et le poète, quoi.
Mais non, mais c'est juste une technique. Sauf qu'on ne se rend pas compte qu'il existe une technique littéraire.
C'est pour ça que vous dites que traduire, c'est votre façon d'écrire.
Bien sûr. Mais il y a encore autre chose. Et qui rend la chose pour moi plus complexe. Je dis souvent ça. Il y a une blague, ce qu'on appelle en durs, les blagues arméniennes. Ce sont l'équivalent des blagues belges. Et qui est très importante. C'est deux questions. Peut-on édifier le socialisme en Suisse ? Réponse. Oui. Mais à quoi bon ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire, on peut tout faire. On peut avoir la technique que vous voulez. Mais à quoi ça sert quand la tradition n'existe pas ? Quand il n'y a pas de critères de valeur. Parce que ce qui est absent en France, c'est la tradition de la traduction. C'est-à-dire qu'on considère comme traduction des choses qui, en Russie, ne sont même pas de l'ordre du mot à mot. C'est-à-dire que les problèmes que se posent la plupart, enfin beaucoup de traducteurs en France, sont des problèmes que ne se pose pas un étudiant de première année en Russie. Et la plupart des traducteurs que je lis sont absolument incapables de résoudre un problème technique, par exemple, traduire un sonnet en respectant une forme fixe. Ils ne sont juste pas capables de le faire. Mais ça ne veut pas dire, comment vous dire, qu'il suffit de respecter une forme fixe pour faire une traduction. Ça veut dire quoi ? Qu'on est, que nous, quand je dis ça, on a l'air de martiens. Parce que le vers, en tant que tel, a disparu de la vie littéraire en France. Et qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Je peux parler de ça ? On a un peu le temps ?
Oui, oui. Bon.
Il y a une différence radicale entre la France et la Russie, du point de vue culturel. C'est la présence en Russie de Pouchkine et la présence en France de Rimbaud. Pouchkine a créé toutes les formes de la culture, de la poésie, de la langue russe, de la littérature russe. Et ces formes se sont continuées jusqu'à un moment où il y a eu la révolution d'octobre. Cette révolution d'octobre a été un moment d'une violence extrême dans laquelle un régime a essayé de tuer la mémoire et de créer un homme nouveau. Toute personne vivant à ce moment-là, sauf exception naïve ou bon, comprenait que ceux qui se mettaient en place étaient de l'ordre de l'inhumanité. Par conséquent, les formes de Pouchkine, la langue poétique de Pouchkine, est restée la seule forme humaine d'une vie inhumaine. Du coup, le vers en tant que tel est resté vivant en Russie. Ça pose des problèmes maintenant, parce qu'il y a un besoin de renouvellement des formes, et qui est très, très problématique en Russie. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé en France ? Il s'est passé que Rimbaud, dans un poème qui s'appelle « Mémoire », dans les derniers vers, c'est-à-dire écrit après la Commune, a mis à écrire un poème en alexandrin sans césure. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est écrire un alexandrin sans césure ? C'est tuer la mémoire. Parce que, et c'est pour ça que le poème s'appelle « Mémoire », le poème parle du meurtre de la mémoire. L'alexandrin, c'est la mémoire sociale de la poésie. Je veux dire, tu dis un alexandrin, tu dis la France. Et tout le monde s'y reconnaît. Alors ça peut être tous les alexandrins que vous voulez, je veux dire, c'est pas la question. Mais jusqu'à Baudelaire y compris. Et jusqu'à Rimbaud y compris. Bon, à partir du moment où on casse la césure, on casse radicalement et d'une façon définitive le lien entre la poésie et la société. Il n'existe, après Rimbaud, les gens ont mis un certain temps à s'en rendre compte, mais disons, bon, c'est une question, une génération. La question, le moment où Rimbaud entre dans la vie, dans la conscience littéraire française, disons avec Mallarmé, et il rentre comme un traumatisme. Ce que c'est fondamentalement, Rimbaud, c'est le plus grand traumatisme de la littérature française, comme une rupture radicale. Après ça, non seulement le vers n'est plus senti comme vivant, mais il n'existe plus de mémoire commune. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la richesse phénoménale de la poésie française, où chaque poète renouvelle sa mémoire. Et on me dit, mais le vers n'existe plus dans la poésie contemporaine, donc on ne peut plus l'utiliser. Sauf que, et je suis absolument d'accord sur la poésie contemporaine, sauf que Shakespeare écrivait en 1500, en 1600, et pas maintenant. Et que là encore, on veut le rendre français si on ne le respecte pas. Mais moi, justement, ce qui m'intéresse dans la langue et dans la tradition, c'est de ne pas être contemporain. Le traducteur n'est le contemporain de personne. C'est Osip Mandelstam, qui est un grand poète russe, a dit ça. Нет никогда ничей, я не был современник. Non, je n'ai jamais été le contemporain de personne. Parce que, qu'est-ce que c'est que la culture? C'est un espace. Je suis le contemporain de tout le monde à partir du moment où j'ai l'idée de ce que c'est. Le temps, pour la conscience, n'est pas une durée, mais un espace. Et pour moi, il est fondamental de ne pas me plier aux règles de la littérature contemporaine pour traduire un auteur qui n'est pas contemporain. Simplement, pas par défi, mais juste parce que ce n'est pas ses problèmes. Mais, et je voudrais compliquer encore la chose, je ne traduis pas par écrit la poésie russe du XXe siècle. À cause de ça. Parce qu'il y a là, autant je traduis la poésie russe du XIXe siècle, parce que d'une façon ou d'une autre, il peut y avoir correspondance, autant je peux traduire la poésie, enfin la métrique de Shakespeare, à supposer que je le puisse, mais ça on pourrait peut-être en parler, etc. Pour moi, il existe une incohérence radicale, une incompatibilité totale entre les deux langues poétiques. Parce que si je traduis Mandelstam ou Akhmatov, qui sont des poètes mais magnifiques, dans la façon dont ils ont été écrits, je fais en français des petites chansons. Si je ne traduis pas en respectant la forme, je fais un contresens radical. Et c'est pour ça que je peux dire que j'ai inventé un autre genre de spectacle, de traduction, c'est que je lis en russe et j'improvise une traduction. Et j'interdis qu'on l'enregistre.
Qu'on l'affiche.
Ouais. C'est que pour les gens qui sont voilà, oral. En expliquant d'où ça vient avec les... Enfin, on a fait une émission comme ça sur France Culture, voilà. Hein. Mais voilà, mais c'est pour ça. Parce que les problèmes sont extrêmement complexes et les niveaux de complexité sont multiples. Donc voilà, j'ai répondu à votre question.
Entretien avec André Markovitz, traducteur. Entretien enregistré au Serpent Volant de Tours.
Ça va, ça s'est bien enregistré?
Ouais, ça passe bien, ouais. Parfait.
Et le bruit de fond, c'est pas grave?
Non, c'est pas trop gênant en fait.
Dans la première partie de cet entretien, nous avons parlé avec André Markovitz des enjeux de la traduction, ainsi que de sa vision de l'art de traduire. Cette semaine, nous allons nous centrer sur l'œuvre romanesque de Dostoïevski, qu'André Markovitz a mis 10 années à traduire dans sa totalité. Pour bien saisir la force et la singularité de cette traduction, nous nous sommes livrés à un petit exercice. Nous avons lu, en parallèle, 2 traductions d'un même passage de Crime et Châtiment. La scène se passe au tout début du roman. Raskolnikov, jeune homme souffreteux, ex-étudiant, qui passe des journées à ruminer des pensées morbides ou à dormir, vit chez une logeuse. Il se laisse complètement aller et vit depuis 1 an dans une totale solitude. Le dialogue qui suit met en scène Raskolnikov, le héros du roman, le futur meurtrier de la vieille usurière, et Nastassia, la cuisinière et l'unique servante de la logeuse, qui s'arrange assez bien de la misanthropie de Raskolnikov et ne fait même plus le ménage chez lui. Dans cette scène, elle le réveille assez brutalement et lui apporte du thé. Voici la lecture. La première voix est celle d'Emmanuel, qui lit une ancienne traduction. La seconde, la mienne, et je lis la traduction d'André Markovitz.
Nastassia posa devant lui sa théière à elle. Fêlé, avec du thé déjà usagé, et y mit 2 petits morceaux de sucre jauni. « Tiens, Nastassia, prends ça, » dit-il en cherchant dans sa poche. Et il avait dormi en effet tout habillé, et en sortant une petite poignée de billon, « Va m'acheter un petit pain. Prends aussi à la charcuterie un peu de saucisson. Pas trop cher. »
Nastassia posa devant lui sa propre théière, fendillée, avec un thé passé, et mit 2 petits morceaux de sucre jaune. « Tiens, Nastassia, prends ça, s'il te plaît. » dit-il après avoir fouillé ses poches, il avait dormi tout habillé, et en avoir sorti une petite poignée de cuivre. « Va m'acheter de la saïka. Et puis prends du saucisson à la charcuterie, un petit peu, du pas cher. »«
Le pain? Je te l'apporte tout de suite. Mais au lieu de saucisson, tu ne veux pas de la soupe au chou? Une bonne soupe, celle d'hier. Déjà hier, je t'en avais gardé, mais tu es rentré trop tard. Une bonne soupe au chou.
La saïka, je te la porte tout de suite. Mais à la place du saucisson, tu voudrais pas de la soupe? Elle est bonne, la soupe, elle est d'hier. Hier encore, je t'en avais laissé, mais tu es rentré tard. De la bonne soupe.
Quand la soupe eut été apportée et qu'il l'attaqua, Nastassia s'installa à son côté sur le sofa et se mit à bavarder. C'était une femme de la campagne et une femme très bavarde. Praskovia Pavlovna veut aller à la police se plaindre de toi, dit-elle.
Quand la soupe fut apportée et qu'il se mit à la manger, Nastassia s'assit auprès de lui, sur le sofa, et se mit à bavarder. C'était une commère de la campagne, et une commère très bavarde. Ben, Praskovia Pavlovna, elle veut te porter plainte à la police.
Il fronça fortement les sourcils. À la police? Mais qu'est-ce qu'elle réclame?
Il fit une forte moue. À la police? Qu'est-ce qu'elle demande?
Tu ne la payes pas et tu n'libères pas la chambre. C'est clair ce qu'elle veut.
Tu paies rien et tu pars pas du partement. C'est ça qu'elle demande.
Eh, il ne manquerait plus que ça, marmonna-t-il en grinçant des dents. Non, maintenant ça tombe mal. C'est une sotte, ajouta-t-il à haute voix. Dès aujourd'hui, je vais aller la trouver. Je lui parlerai.
Ah, nom de nom, il manquait plus que ça, marmonna-t-il, les dents serrées. Non, ça en ce moment, pour moi, ça tombe mal. Quelle idiote alors, ajouta-t-il à voix haute. Je passe la voir aujourd'hui, je vais lui payer.
Pour être une sotte, elle en est une. Et moi aussi, j'en suis une. Mais toi, l'intelligent, qu'est-ce que tu as à rester étendu comme un sac, sans faire de profit à personne? Avant, tu dis que tu allais donner des leçons aux enfants. Et maintenant, pourquoi tu ne fais rien?
Idiote ou pas idiote, elle est comme moi. Et toi, là, la grande tête, tu restes là comme un sac et fais rien de rien. Avant, tu disais, tu donnais des leçons aux gosses, et maintenant, pourquoi que tu fais rien?
Je fais, dit Raskolnikov d'un air contraint et mécontent. Qu'est-ce que tu fais? Un travail.
Je fais, répondit à contre-cœur et d'une voix sourde Raskolnikov. Et tu fais quoi? Un travail.
Quel travail? Je pense, répondit-il sérieusement après un silence. Nastassia éclata de rire, elle était rieuse, et quand l'occasion se présentait, elle riait doucement en se balançant, secouée de tout son corps jusqu'au moment où la tête lui tournait.
Lequel de travail? Je réfléchis, répondit-il d'un air sérieux après un certain silence. Nastassia se retrouva pliée de rire. Elle était celle qui ont le rire facile, et quand elle riait sans bruit, en se balançant et en tremblant de tout le corps, jusqu'au moment où, elle-même, elle commençait à se sentir mal.
« Et tu as gagné beaucoup d'argent comme ça en pensant » put-elle enfin dire.
« Et tu t'en fais beaucoup, des sous à réfléchir » finit-elle par pouvoir articuler.
« Sans bottes, pas moyen d'aller donner des leçons. D'ailleurs, je crache là-dessus. Allons, ne crache pas dans le puits. »«
Sans chaussures, on ne peut pas donner des leçons. Et puis, je m'en fiche. Crache pas dans la fontaine, va. »
Les leçons, ça ne rapporte que des gros sous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Continua-t-il à contre-cœur, comme répondant à ses propres pensées.
Les leçons, c'est payé au lance-pierre. Qu'est-ce que tu veux faire avec des copecs? Poursuivit-il à contre-cœur, comme s'il répondait à ses propres pensées.
Alors tu voudrais tout de suite tout un capital? Il la regarda d'un air singulier. Oui, tout un capital, répondit-il fermement après un silence.
Parce que toi, c'est tout le capital tout de suite. Il la regarda bizarrement. « Oui, tout le capital, » répondit-il d'une voix ferme après un court silence.
« Vas-y plus doucement, hein. Autrement tu peux faire peur aux gens. C'est un peu effrayant. »«
Vas-y tout doux quand même, ou ça fait peur sinon. Ça fait comme trop bizarre. »
Nous écoutons maintenant les réactions d'André Markovitch sur cette double lecture et sur ses choix de traduction.
« Par exemple, tout début... »«
La saïka. »«
La saïka.
Bah, »« c'est comme ça. C'est un plat particulier, c'est un genre de pain particulier, donc il reste comme ça. »«
Ça se traduit par...
Bah »« non.
Pas traduire. »«
Bah non. Non, non. »«
Par français. »«
Non, c'est important qu'il mange un pain russe.
Voilà. » ouais. Ensuite, il y a des expressions qui sont arrivées,
oui.
Syntaxiquement, même...
Ah ouais, te porter plainte. Hein.
Voilà, te porter plainte à la police.
Ah ben c'est comme ça. Je ne me souviens plus exactement en russe, mais c'est un truc, pas un russe pas normal. Hein. Voilà. Donc te porter plainte.
On sent que cette langue pas normale, ce russe pas normal, là il est... On le sent, quoi, ici, là, dans
ouais,
le...
Ouais, ouais, même parce que... Et puis c'est rapide.
Ouais, il y a un côté rapide, effectivement.
Ah, je vais te porter plainte.
C'est direct.
Ben ouais, parce qu'elle comprend pas. Porter plainte, pour elle, c'est un truc tout fait, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, porter une plainte, tu vois? Je vais te porter plainte. Hein. Comme je vais te traiter de tous les noms, c'est pareil. C'est grave, hein, je te porte plainte, hein. Tiens, c'est ça.
Et pareil, alors là, c'est carrément...
Ah, du partument, oui. Ah oui. Ah non, c'est parce qu'en russe, je me souviens, c'est le mot appartement, c'est quartier, et elle, elle dit quartier.
Eh bien, quartier,
elle transforme le mot. Et donc c'est le partement. Puis moi ça me plaisait bien partir du partement si tu veux. C'est justement le partement, c'est là où tu restes si tu veux. Donc tu pars quand tu restes quoi si tu veux. Donc... Mais là moi j'ai vu un là en écoutant moi j'ai remarqué un changement radical. C'est un capital et le capital.
Ça c'est là où on a tout le personnage de Raskolnikov.
Mais bien sûr parce que dans cette scène là ce qui est génial avec Dostoïevski, c'est qu'il n'y a pas de scènes, comment dire, qui n'ont pas trait à la chose essentielle. Mais bien sûr. Et là, ce qui compte, c'est qu'il veut tout le capital. Il ne veut pas un capital. C'est-à-dire que le traducteur, que je ne sais pas qui a traduit ça, il raconte l'histoire.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on veut tout un capital, mais non, il veut tout. Et lui veut d'abord tout le capital. Maintenant, la question est, en russe, il n'existe pas d'article. Donc personne ne peut dire si c'est un capital ou le capital. Et la façon dont je le lis est naturellement une inflexion forte. Mais je le vois sous une forme de théâtre. Cette scène, elle sert à quoi? Et c'est pour ça que sa fin, c'est pour ça que la fin, il dit, ça fait peur sinon. Ce qui compte. C'est que l'essentiel de cette scène, c'est que Nastassia qui rigole au début, à la fin, rigole pas du tout.
Ouais, ça lui fait peur. Hein.
Ça fait pas peur aux gens, ça fait peur.
Ça fait peur. Ça fait peur. Mais bien sûr. Autrement, tu peux faire peur aux gens. Non. Je me souviens plus exactement du mot à mot du texte russe, mais le texte russe dit pas aux gens. Je me souviens pas qu'il dit ça. Ça fait peur.
Mais sauf cette idée de retrouver tout l'enjeu de Raskolnikov dans cette petite phrase,
tout
capital, ça rappelle aussi cette idée de Dostoïevski qui disait, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais son idée poétique, son idée du roman, il l'a montré du doigt constamment. Mais là, on sent que c'est montré du doigt par tout le capital.
Mais bien sûr, c'est-à-dire, Dostoïevski disait, ce qui compte dans l'écriture d'un roman, c'est le poème. Qu'est-ce qu'il appelait poème? Il appelait poème l'idée principale, le noyau. Et il mettait des années à faire des plans et à des plans et des plans, à recopier ses plans. Il écrivait énormément, mais ses plans, pour que la structure de l'image soit claire et précise tout le temps. Et après, il disait, une fois qu'on a ça, il ne reste plus que le travail de l'écrivain. C'est-à-dire la copie. L'artiste. La copie. Et il écrivait très vite, et de fait, il pouvait dicter. En quelque sorte, c'est comme si ça ne l'intéressait plus, une fois qu'il avait trouvé l'image rayonnante.
L'idée.
L'image.
L'image. Et c'est ça que vous êtes attaché à faire transparaître.
Bien sûr, moi c'est ça que j'essaie de faire. C'est-à-dire que le lecteur puisse sentir que, quand il dit le capital, ça fait peur. Réellement, ça fait peur. Parce qu'un gars qui veut le capital est capable de tuer.
Il y a aussi quelque chose d'étrange, c'est la traduction de la métaphore. Allons ne crache pas dans le puits. Vous traduisez Allons ne crache pas dans la fontaine.
Mais ça c'est
une métaphore.
Ben non, mais en russe, on dit ne crache pas dans le puits. Mais en français, on dit crache pas dans la fontaine. Le puits, c'est la fontaine en français. Tu vois, on ne dit pas fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Donc voilà, c'est la fontaine. On parle d'une fontaine et pas d'un puits.
Parce que c'est souvent en fait une question qui se pose, par exemple, et pour la métaphore, est-ce qu'il faut que je la retrouve en français ou est-ce qu'il faut que je la traduise mot à mot? Et est-ce que quand je vais la traduire mot à mot, il ne va pas y avoir quelque chose de l'ordre du performatif, dans le sens où je vais rencontrer ce que l'autre voit en fait. Parfois je me demande...
Il n'y a pas de règle, hein. D'abord, quand on dit il faut, déjà c'est une erreur. Après, moi je suis. Ça, à chaque fois c'est des cas particuliers. Mais le problème avec Dostoïevski, c'est que tout est capital. Et que, comment vous dire? Ce qui compte, c'est là, c'est une question de choix. Il dit ça, qu'est-ce qu'on dirait? En français, on ne parle pas du puits. En russe, on ne parle pas de la fontaine. Donc voilà. À mon avis, il vaut toujours mieux traduire la raison pour laquelle la chose est là que la chose elle-même. Parce que le mot à mot est souvent trompeur.
Oui, il ne crache pas là où on voit, quoi.
Ben voilà, c'est ça. C'est ça.
Je sais qu'une fois vous avez dit que si vous aviez traduit Dostoïevski, c'est tout Dostoïevski ou rien.
Bien sûr.
Comme si vous vouliez montrer que dans une œuvre de Dostoïevski, on a tout Dostoïevski, mais qu'à la fois c'est dans une lecture totale des œuvres, ouais, qu'apparaît le dessin de Dostoïevski.
Pour moi, c'est une chose capitale. Les problèmes de la recréation, disons ça, de la retranscription de l'œuvre de Dostoïevski en France sont des problèmes extrêmement complexes et tellement complexes qu'ils ne pouvaient pas être résolus en un livre. Parce que la façon dont Dostoïevski considère la littérature n'a aucun équivalent en France. Les problèmes qui se posent sont des problèmes sans équivalent. Ça ne veut pas dire que c'est des problèmes qui ne sont pas compréhensibles.
Mais est-ce que c'est aussi parce que finalement, dans chaque œuvre, on retrouve des personnages.
Non,
par exemple, le personnage d'Alyosha, les frères Karamazov, on a l'impression qu'on va le retrouver un peu dans l'idiot.
Bien sûr, il y a des choses différentes. Il y a l'œuvre de Dostoïevski en elle-même. Je peux parler d'une façon, comment dire, égoïste. Avoir la chance de vivre pendant 10 ans et un peu plus, tous les jours, en s'enfonçant, en étant plongé dans l'œuvre de Dostoïevski, c'est une chance inouïe. Ça, c'est une chose. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Mais ça, c'est la première raison qui est une raison d'ordre privé. Mais il y a des raisons beaucoup plus importantes. La deuxième raison, c'est faire ressentir en français que l'écriture de Dostoïevski n'est pas absurde, n'est pas inouïe. Elle est inconnue, mais pas inouïe et pas impossible. Qu'on peut écrire comme ça. Et en quelque sorte, je dis ça d'une façon vulgaire, habituer le lecteur. Ce que je veux dire, c'est que au début, quand les premières traductions de Dostoïevski sont parues, il y a eu une espèce de scandale. Hein? Oh, machin, vulgaire, tout ça, bon, bref. Petit à petit, ces problèmes ont disparu. Et les gens ne parlaient plus de la traduction, mais achetaient les bouquins. Et comment dire ? On commençait à se poser les vrais problèmes de la poétique de Dostoïevski, qui sont en fait mes problèmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette image rayonnante chez Dostoïevski ? Qu'est-ce que c'est que la construction de l'image ? Qu'est-ce que c'est la langue de Dostoïevski ? Au sens où, qui parle et pourquoi on parle ? Et ainsi de suite. Et ces problèmes-là ne peuvent être réellement posés que sur l'ensemble de l'œuvre. Parce que c'est un chemin. Et j'avais cette chance extraordinaire d'être suivi par un éditeur. Suivi, devancé, aidé, épaulé, enfin, le mot était le mot que vous voulez. Mais cette intégrale de Dostoïevski n'est pas une intégrale personnelle. Je veux dire, c'est moi qui ai traduit. Mais comme j'ai dit, c'est ma mère qui a relu, Françoise qui a relu, etc. Et aussi, c'est Actes Sud qui m'a soutenu. Et qui non seulement m'a soutenu financièrement, tu m'as payé les traductions, ce qui est important, mais c'est même pas ça. C'est qu'ils pouvaient le faire parce qu'ils n'avaient pas Dostoïevski dans leur catalogue. Et que donc, en quelque sorte, ça s'inscrivait sur une terre vierge, qui était une nouvelle façon de voir Dostoïevski. Et je dirais en plus, il y a encore une chose plus bête, mais capitale, c'est que j'avais insisté pour que chaque livre de Dostoïevski, chaque œuvre de Dostoïevski soit publiée séparément. C'est-à-dire qu'on connaît les grands romans de Dostoïevski. Je ne suis pas sûr que tous les auditeurs connaissent Le Crocodile, Une sale histoire ou les nouvelles. Pourtant, les nouvelles sont absolument magnifiques. Eh bien, le brochage du livre de poche permet de faire des gros bouquins et des petits. Eh bien, dans l'économie de ce travail, ce fait technique est tout aussi important.
Toujours dans la perspective de la totalité de l'œuvre de Dostoïevski, vous avez écrit dans la préface de l'Adolescent, et vous allez nous dire si pour vous c'est important, que peut-être vous aviez entrepris cette traduction de toute l'œuvre uniquement pour ce passage où l'adolescent, Arkady, parle de son idée de devenir Rothschild.
Oui, et de Pushkin.
Et de Pushkin, et le rapport alors avec le chevalier avare.
Non, c'est pas. Là, pour le coup, c'est une phrase très importante. Là, on entre dans une chose très très sérieuse, pour moi. Comme si ce que je disais avant n'était pas sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire parler russe ? Pour quelqu'un qui est de langue russe maternelle, je veux dire. C'est parler la langue de Pushkin. Il n'existe pas de moyen à l'étranger de comprendre l'importance, la présence, l'immensité de la figure de Pushkin. Chaque roman de Dostoïevski est tiré d'une citation ou d'une œuvre de Pushkin. Et comment je peux vous l'expliquer quand Pushkin, c'est de la poésie ? Et pendant très longtemps, et une poésie mais sans exemple, absolument inouïe. Inouïe. Voilà. Et mais comment le faire comprendre ça ? Que quand on parle de Russie, on parle de Pushkin. Et donc, mon idée a été d'abord de traduire autour de Pushkin.
Oui, on aurait pu croire du coup que vous auriez commencé par traduire Pushkin.
J'ai commencé quand j'avais 17 ans. C'est très très mauvais, mais je ne comprenais rien. Moi, je traduis tout depuis l'âge de 16 ans. J'ai 45 ans. Et j'ai traduit autour de Pushkin, j'ai traduit tout le théâtre de Gogol, j'ai traduit le théâtre de Lermontov, j'ai traduit Dostoïevski, j'ai traduit beaucoup d'autres choses. Hein? Parce que, comment dire, le réviseur de Gogol, c'est Pushkin qui lui a donné le sujet. Parce que c'est Pushkin, Gogol est allé voir Pushkin et lui a dit « donnez-moi un sujet ». Et Pushkin lui a donné deux sujets. Il lui a donné le sujet du réviseur et le sujet des âmes mortes. Et si vous faites attention, c'est le même sujet. C'est comment rien devient tout. Comment dire, le réviseur n'est pas le réviseur, mais il suffit qu'on croit que c'est le réviseur pour que ça soit le réviseur.
Exactement.
Et les âmes mortes, elles n'existent pas. Eh bien, c'est pas grave, puisqu'elles existent administrativement. Donc, puisqu'administrativement elles existent, on peut faire un emprunt dessus. Mais comme elles n'existent pas, on peut les acheter pas cher. Vous comprenez ? Bon. Et donc voilà. Et puis. Et là, en ce moment, par exemple, je travaille, mais depuis des années et des années et des années, sur une anthologie de la poésie romantique russe, où je traduis aussi quelques poèmes de Pushkin. Bon. Puis j'avais commencé à traduire Eugène Onéguine. J'ai traduit les petites tragédies de Pushkin, justement, le chevalier avare. J'ai traduit...
La Dame de Pique aussi, non ?
Non. J'ai commencé à faire La Dame de Pique, là, en mai, je crois. Et puis, j'ai... Pendant... Très longtemps, j'ai été persuadé que je ne pourrais pas le faire. Eugène Onéguine. Et puis en l'an 2000, voilà, en l'an 2000, j'étais dans le train, on allait à Marseille, de Rennes, vous savez, il n'y avait pas le TGV à l'époque. Et puis c'était très long. Et tout à coup, c'est dans le train, moi, soit je me chante des chansons en breton, soit je me dis des poèmes en russe. Et tout à coup, je me suis entendu me dire Onegin, mais pas en russe. Et j'ai compris que j'avais mis des mots russes à la place des mots français. Des mots français à la place des mots russes. Et à ce moment, je me dis, attends, peut-être que je pourrais travailler sur la sonorité. Et j'ai travaillé. Et j'ai publié Eugène Onegin, là, maintenant.
Récemment.
Et c'est, et de loin, la chose la plus importante que j'ai faite. De loin. Et en ce moment, je travaille sur toute une série du romantisme russe. En dehors de Shakespeare, tout ça. Ok, je continue à traduire. Mais... mais parce que j'ai pas traduit que Eugène Onegin, donc j'ai traduit des petites pièces, je fais cette anthologie, j'ai traduit Gogol, j'ai traduit aussi Le malheur d'avoir trop d'esprit de Griboyedov qui va être joué l'année prochaine.
Et est-ce qu'il y aurait un roman de Dostoïevski qui aurait été particulièrement fécondé par Eugène Onegin, je sais pas, Les démons ou...
Non, pas par Onegin. Les démons, c'est un poème de Pouchkine.
C'est un poème de Pouchkine.
Bien sûr. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимка луна освещает снег летучий, мутное небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик, динь-динь-динь, страшно, страшно по неволе, средь неведомых равнин. Эй, пошел ямщик, нет мочи, конем барин тяжело, вьюга мне слепают очи, все дороги занесло, хоть убей следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле бесно сводит видно и кружит по сторонам. Вас оконтинюю комсят, сегодня tempête de neige. C'est un démon, les démons. Et un certain qui poursuivent un personnage, qui font tourner un personnage dans la tempête de neige. C'est pour ça que c'est les démons et pas les possédés. Et à un certain moment, Pouchkine dit, il décrit la tempête de neige et il dit бесконечно, безобразно, в мутный месяц игре разыгрались безразно, будто листья в ноябре. Ça veut dire бесконечный, infini, безобразный, littéralement monstrueux, mais l'étymologie du mot monstrueux, c'est sans image. Образ, c'est l'icône. La métaphore, mais l'icône, l'image. Sans, infini, donc sans image, sans...
Redites le mot.
Безобразный.
C'est celui qu'on retrouve dans l'adolescent, non ?
Mais bien sûr, mais bien sûr. L'adolescent parle de ça.
C'est ça, tout le temps.
De ça, mais bien sûr. L'adolescent parle de благообразие, de l'image belle, mais par opposition à ça. Et bien sûr, parce que tout le travail de Dostoïevski, c'est le travail de la création de l'image, de obras, qui est à la fois l'image divine et aussi l'image insupportable. L'image du Christ, mais l'image du Christ est par essence insupportable, puisque le Christ dans le monde détruit le monde. Puisqu'il ne peut pas le sauver.
L'idiot.
C'est l'idiot, mais bien sûr. Et c'est aussi le grand inquisiteur, la légende du grand inquisiteur. Voilà. Et donc voilà, ce poème-là parle de ça. Et petit à petit, ce que j'essaie de faire, mais c'est compliqué à expliquer ça, mais ce que j'essaie de faire, c'est de moi, j'ai confiance dans ce que Montaigne appelait le bénévole lecteur. C'est-à-dire le lecteur de bonne intention et qui a l'intention d'acheter toutes les traductions d'André Markovitch. Et j'encourage fortement l'auditeur présent à l'autre bout de la radio de faire la chose. Je veux dire, bon, ça fait une centaine de bouquins pour l'instant, mais courage, vous y arriverez. Petit à petit, au fur et à mesure, voilà, de constituer un monde qui est une espèce de Russie en France. Parce que moi, je dis toujours, la traduction, qu'est-ce que c'est ? On m'a posé cette question au début, mais qu'est-ce que c'est traduire ? Mais la traduction, c'est un métier de juif laïque. C'est-à-dire que, moi je considère, c'est, je dis ça en tant que juif, pour moi la création de l'État d'Israël a été une grande tragédie. Et les conditions d'existence de l'État d'Israël sont une tragédie encore plus grande. Bon. Parce que ce qui a disparu avec la guerre est la possibilité d'une vie juive laïque en Europe. Enfin, je veux dire en tant que juif, mais laïque, quoi, sans religion. Eh ben, qu'est-ce qui est... Moi, je suis juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me sens bien partout, potentiellement. Voilà.
Avec vous,
mais bien sûr. Mais c'est pas une terre. J'ai pas... Mais voilà. Je peux être bien partout. J'ai pas besoin d'appartenir à quelque chose. Voilà. Et la tradition, la traduction, est une façon de construire une espèce de terre qui n'est pas une terre. Et une terre aléatoire. C'est-à-dire une terre qui est en elle-même un mouvement. Et ça, je pense que c'est une chose qu'on peut comprendre.
Tout à l'heure, vous disiez que votre mère est russe. Oui. De quelle région de la Russie?
De Leningrad, qui a été Pétersbourg et qui est redevenu Pétersbourg. Ma grande-tante est née à Saint-Pétersbourg en